Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka'ohanui.
Et bienvenue dans cette 42e émission,
édition 2023.
Rappelez-vous le dernier épisode. Au soir du 19 septembre 1842, après trois jours de combats mortels, les Français sont retranchés dans le camp fortifié installé sur la colline séparant Waitahu de
Hanami'ai.
Cette nuit-là, ils envoient chercher des renforts à Nukuhiva. Mais les secours arriveront-ils vraiment? Combien de temps devront-ils attendre? Et nous, en attendant, reprenons le fil du récit de Max Radiguet à la page 109 et au matin du mardi 20 septembre 1842. À 4 heures du matin, la lune venait de se coucher et l'on avait encore devant soi plus d'une grandeur de ténèbres profondes quand tout à coup, comme la veille, le feu s'ouvrit sur les différentes faces du camp et sur le morne de la redoute. Les Kanaks s'étaient avancés de toutes parts, rampant avec lenteur pour ne pas donner l'éveil. C'est là qu'on les attendait. Aussi trouvèrent-ils des gens disposés à leur répondre. Les factionnaires placés à l'extérieur avaient dû se replier vers le poste de la redoute. Quelques-uns d'entre eux, grâce à la vigilance d'un second maître du bucéphale nommé Castra, qui donna l'alarme en faisant une ronde, se joignirent à lui et soutinrent le feu en s'orientant de leur mieux dans l'obscurité. Un autre petit groupe réussit à déloger les Kanaks les plus avancés d'un endroit d'où leur feu pénétrait dans la petite redoute. Cependant, la situation de celle-ci devenait critique. Ses défenseurs y postaient vivement partout où ils étaient sûrs de n'avoir que l'ennemi en face. Plusieurs hommes y furent blessés, entre autres le capitaine d'armes du navire bucéphale qui, frappé de deux balles à la cuisse, ne quitta point le parapet où il aidait encore à la défense par ses conseils. À la vivacité et à la durée de l'attaque, on comprit au camp que l'effort réel des Kanaks se portait sur la redoute. On détacha donc vers le morne une section de renfort. Elle arriva au moment où le sous-lieutenant Fossé, qui aux premières lueurs du jour était parvenu à distinguer la position, mettait en peloton serré tout ce qui n'était pas indispensable à la défense du retranchement et faisait charger à la baïonnette. Les arrivants se joignirent à lui. Matelots et soldats abordèrent l'ennemi, le culbutèrent sur les versants de Hanami'ai et de la mer, et toute la crête du morne fut en un instant balayée. Mais les Kanaks se laissant rouler en quelque sorte sur les déclivités du morne, distançaient vite les jambes européennes. Une décharge générale les suivit sous les arbres de la vallée où le navire bucéphale à son tour jeta quelques paquets de mitraille. Malgré la vitesse incroyable de leur fuite, les Kanaks étaient parvenus à emporter les morts et les blessés. 5 cadavres seulement furent abandonnés sur le morne. Le jour commençait de se faire au moment de la déroute. C'est donc le matin du 20. On avait donc pu juger cette fois du nombre des Kanaks qui avaient pris part à l'attaque du morne. C'était, on l'a su depuis, le plus grand effort qu'ils eussent jamais tenté, et longtemps encore après, ils ne pouvaient se rendre compte de leur insuccès. Bien que très braves, ces hommes n'ont aucune idée de la persistante énergie des Européens. Ils attaquent avec impétuosité, ils excellent dans les reconnaissances, les coups de main, les surprises, mais, le premier élan passé, ils fuient au moindre échec, sans honte et sans remords. La population de Tahuata était du reste renommée dans tout l'archipel pour ses vertus guerrières. Plusieurs faits semblèrent confirmer cette opinion. J'en veux citer un. Pendant la décharge générale faite sur les fuyards, le pilote Panau, l'ancien Tohanui de Yotete, devenu pilote,
c'est-à-dire chargé de guider vers un mouillage sûr les navires étrangers en escale,
vit tomber auprès de lui un chef dont quelques arbustes arrêtèrent le corps. N'ayant pu, sur la pente rapide où il s'était lancé, rompre d'un coup l'impulsion de sa fuite, il remonta la distance franchie, enleva le mort et, montrant le poing aux Français qui le mitraillaient d'en haut, sans trop presser le pas, il continua de descendre et disparut avec son funèbre fardeau dans les taillis. Le 21 septembre, des rassemblements se formèrent de nouveau sur les plus hautes cimes. Si des groupes nombreux s'avisaient de descendre dans la vallée, le Bucéphale, prévenu par les signaux de la redoute, faisait jouer ses canons. Si des pirogues se montraient à l'entrée de la baie, la traversant pour se rendre à Hapatoni, le grand canot prenait chasse, mais elle distançait vite nos embarcations. Le 22, à 5 heures du matin, une nouvelle tentative sans énergie, dirigée contre le camp, n'eut d'autre résultat que de blesser légèrement un de nos hommes. L'ennemi continua ensuite, jusqu'au soir, une innocente fusillade à laquelle on dédaigna de répondre.
Mori no atu tato e ha tuha e ia ato. Mo i no atu ia tuha e ia tato. E vai nei ato. Tene te tau kuhane No hone he take Te moana nui o hiva e I hawa I ki nui nene Te wahi noho I a te kuhane o mua Ma to tene te tau kuhane No honei he take, te moana nui o hiva e. I hawa I ki nui nei, te wahi noho I a te kuhane o pua. Hawa I ki e, hawa I ki e. Te wahi o te kuhane o te ati o mua Hawaii ki e Hawaii ki e Haama a kawa nanu I apene I a oto Te Hawaii, te Haazupuna Wa moe huho I matoi tenei Na oto hakawaa to mato oko E apene I a oto Tapu te Hawaii, te Haazupuna Wa moe huho I matoi tenei Na oto hakawaa to mato oko Hawaii ki e Hawaii ki e Te wahi o te kuhane o te ati o mua Hawaii ki e Hawaii ki e Haama a kawa nanu Hawaii ki e Hawaii ki e Te wahi o te kuhane o te ati o mua Hawaii ki e Hawaii ki e Haama a
Hawaii-ki-e, Hawaii-ki-e, Hawaii-ki-e.
Le 23, dès l'aube, un navire parut au large, c'était la boussole. Elle mouilla dans la baie vers midi. Une nombreuse corvée fut aussitôt mise à terre et concourut à des travaux de fortification passagère qui, placés en deux points du morne de la redoute, mettaient le camp parfaitement à l'abri. Des munitions et des vifs furent aussi versés au Bucéphale et à la garnison. L'arrivée de la boussole parut changer la disposition des naturels. La fusillade s'éteignit peu à peu et le soir même, on crut voir sur les sommets hantés les jours précédents s'agiter des tapas blancs. Bien qu'à cette distance, le vêtement des femmes qui viennent visiter les guerriers aux postes les plus avancés pût tromper le regard, on donna l'ordre de ne tirer qu'à bon escient. Le 24, un grand nombre de Kanaks se montrèrent sur les crêtes qui mènent aux baies de Hapatoni et de Hanatetena. Tous portaient des fardeaux comme s'ils déménageaient et abandonnaient complètement les deux vallées. À 10 heures, ils firent de leur position la plus voisine une décharge qui dura assez longtemps pour paraître générale et à partir de ce moment, on n'en revit plus un seul. Le chef de la mission catholique française, le père Baudichon, pensant alors, d'après sa connaissance du pays, que le peuple devait désirer la paix, s'offrit pour s'informer de ses intentions. Une baleinière de la boussole, commandée par M. Desnoyers, enseigne de vaisseau, conduisit le missionnaire à la baie de Hapatoni. Quelques heures plus tard, il en ramenait Maheono, sa femme, et deux autres chefs. Tous portaient des tapas blancs qu'ils agitaient en approchant du navire. Les commandants se réunirent à bord de la boussole et la paix fut accordée aux Kanaks à diverses conditions, dont voici les principales. Abandon complet des deux vallées de Waitahu et de Hanami'ai, ainsi que des versants et mornes qui y conduisent et les commandent. Ces terres, avec tout ce qui s'y trouve, cases, arbres, fruits, animaux divers, etc., devient propriété des Français. Iotete était expulsé des vallées, mais on consentait à le laisser vivre dans la baie de Hapatoni. Maheono, proclamé de nouveau chef suprême de Tahuata, devait, au nom de tous, faire acte de soumission complète au commandant français. On fixa l'heure de midi pour recevoir le jour suivant, dans les formes et les coutumes du pays, l'hommage de ce chef qui put retourner avec son escorte porter aux Kanaks les conditions de la paix. Le dimanche 25 septembre 1842, à l'heure dite, Maheono, toujours accompagné de sa femme et suivi de plusieurs indigènes, se présenta au commandant Laferrière. Un chef inférieur lui remit une palme verte que nouait un tapas blanc. Maheono vint la déposer au pied du commandant, puis il lui prit la main et, se prosternant à plusieurs reprises, il se déclara son vassal. Monsieur Laferrière, après avoir accepté la palme symbolique, dit aux Kanaks qu'il recevait au nom du roi des Français leur serment de soumission et d'obéissance, leur accordait la paix aux conditions indiquées et leur promit que nous serions amis fidèles tant qu'ils se montreraient eux-mêmes loyaux dans l'exécution du traité. Maheono, s'approchant alors de M. François-Paul Baudichon, lui demanda s'il devait, la nuit suivante, envoyer sa femme à M. Laferrière. Le missionnaire prit sur lui de répondre, sans traduction préalable, que telle n'était pas la coutume des Français, et la physionomie du chef rayonna soudain de satisfaction. Ce jour même, la boussole appareilla et fit route sur Nukuhiva. 20 de nos braves avaient été mis hors de combat, mais des soins si habiles et si empressés leur furent donnés par messieurs les chirurgiens Le Bâtard et La Motte que des blessures fort graves vinrent à guérison complète en dépit des funestes influences de la chaleur, des difficultés du transport et surtout de l'exiguïté du local mis à la disposition des malades. Après la conclusion de la paix, les Kanaks conservèrent un reste de défiance et de crainte envers les Français. Pour mettre fin à leurs appréhensions, le Bucéphale fit une tournée dans toutes les baies importantes du groupe sud-est en reprenant les relations avec les formes amicales du passé. Cette visite produisit un excellent effet et les naturels se montrèrent peu à peu à l'établissement, c'est-à-dire à Waitahu. Quelques-uns même, au bout de 3 ou 4 mois, demandèrent et obtinrent la faculté de vivre dans nos vallées sous l'autorité directe du gouverneur. Mais le nombre de ceux-ci fut très restreint et la population entière de Tahuata se fixa à Hapatoni et Hanatetena. Après une guerre de 10 jours ayant fait de nombreux morts des deux côtés, la paix est revenue définitivement sur Waitahu et Tahuata. Les victimes françaises seront enterrées sur place et l'on peut encore voir à Waitahu un monument à leur mémoire. Iotete mourra à Tahuata le 26 avril 1843 ou en septembre 1844, selon d'autres sources. C'est une fin triste et sans avenir pour l'âme du chef. Malgré le respect des traditions, des pleureuses et de l'embaumement dont le corps bénéficiera, il n'y a pas de grand prêtre Tahua pour le déclarer Etuwa divinité. Mahé Ohono, ancien chef de Tahuata qui avait succédé à Iotété, son oncle, mourra le 4 avril 1880. Capturé et mis à mort par trois guerriers Pahatai de Puamau à Hivaoa, sa tête dépecée sera offerte sur le site sacré au pied du piton Toea, en marge du Meaete Iipona de Puamau. Une petite histoire de notre temps pour conclure. Depuis le début des émissions traitant de cette guerre, je parle de cette colline qui sépare Waitahu de Hanami'ai, et depuis le début, j'essaye d'en connaître le nom d'origine, Teikuatu. Dans l'ancien temps, tout élément matériel et physique portait un nom propre, mais jamais le nom de cette colline n'avait été mentionné devant moi. J'ai beaucoup et longtemps enquêté, en vain. En juillet 2016, j'ai téléphoné à Tehaumate Tetahiotupa, ancien maire de Tahuata et académicien marquisien, qui m'a confirmé ne pas avoir entendu parler d'un nom ancien pour cette colline, mais qui m'a dit que de nos jours on l'appelait le fort, ou qu'on lui donnait deux autres noms imités du français, Taramotai, comme la montagne, et Patri, comme la batterie de canon. Grâce à Déborah Kimitete, Gabriel Colombani et Teiki Santos des services de l'urbanisme et du cadastre de Taiohae, j'ai pu consulter les documents concernant cette terre. On y apprend que si quelques parcelles privées descendent à droite et à gauche vers Waitahu et Hanami'ai, la parcelle du sommet, de forme rectangulaire, se nomme le fort des officiers français et appartient à la Polynésie française. La surprise vient de ce que toute la partie face à la mer, en forme de trapèze, ne possède toujours pas de nom et appartient, c'est écrit noir sur blanc, à l'État français. Pas de commentaire. Chers amis, ne manquez pas la prochaine émission pour laquelle nous resterons encore un peu en 1842, où nous entendrons une autre histoire sanglante, celle d'une cérémonie sacrificielle qui dura 5 jours. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci au groupe Kave'e Moetai pour sa chanson de circonstance, Hawaiki, nom ancestral du séjour des morts marquisiens, qui nous explique leur vie au fond de l'océan et nous exhorte à ne pas les oublier. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.